Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission, auteur et autrice, bien évidemment. Et puis, nous retrouvons dans la deuxième partie nos critiques, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs du jour, notre globetrotteur Benaouda Abdelhaim, notre bibliothécaire Frédéric Simotel. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Deux thèmes aujourd'hui dans la librairie de l'écho, deux thèmes structurants de toutes les campagnes électorales. Les politiques sociales d'abord, qu'est-ce qui fonctionne vraiment, à l'inverse, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi? Est-ce que c'est un problème de philosophie ou bien tout simplement un problème de mise en œuvre? Réponse avec Gwenaëlle Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris Nord et vous avez co-dirigé Politique sociale, l'état des savoirs. C'est un ouvrage collectif publié aux éditions La Découverte. Le voici. Et puis, deuxième thème structurant également, c'est l'Europe. L'Europe aux multiples facettes. Alors, libérale, alors trop ou pas assez. Solidaire, trop ou pas assez. Europe trop forte ou trop impuissante. À voir, eh bien, que nous a-t-elle vraiment apporté? Que peut-elle encore vraiment nous apporter? Réponse avec vous, Laurent Varlouzet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire. Histoire de l'Europe à Sorbonne Université et vous publiez Europe contre Europe aux éditions du CNRS. Je commence avec vous, Gwenaëlle Perrier. Alors, avec cette question qui est une question, c'est un défi ce que je vous demande, qui consiste à résumer en quelques phrases l'état des savoirs, puisque c'est le titre du livre, Politique sociale, l'état des savoirs. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases l'état des savoirs en matière de politique sociale? Est-ce que ça marche, ça marche pas? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas?
Bonjour, c'est un défi effectivement. Avec mon collègue Olivier Giraud, on a donc co-dirigé cet ouvrage collectif et avec 19 autres collègues pour faire le point effectivement sur ce que les sciences sociales peuvent nous apprendre sur les politiques sociales. L'idée était de décentrer un peu le discours par rapport à l'approche financière et économique.
Oui, c'est toujours la question des moyens qu'on se pose en première.
Exactement. Là, l'idée c'était de réfléchir plutôt aux mobilisations, aux pouvoirs publics, aux contrôles qui traversent les politiques sociales en partant d'un point de départ important, c'est que les politiques sociales sont en quelque sorte un bien commun, puisqu'on a tous et toutes à faire politique sociale, en tant que malade, en tant que retraité, en tant que parent, on bénéficie de l'état social. Donc l'état social, voilà, a une dimension de protection des individus à plusieurs moments de leur vie, dans des périodes de vulnérabilité par exemple. Cette dimension de protection, elle est doublée aussi d'une dimension redistributive parfois. Les actifs et actives, par exemple, cotisent pour les retraités. Ouais. Les personnes sans enfants cofinancent la politique familiale et assurent une relative égalisation des revenus entre les personnes sans enfants et les personnes avec enfants.
Alors, il y a deux difficultés. La première que vous soulignez dans le livre, c'est qu'en fait, les défis auxquels sont confrontées les politiques sociales évoluent en permanence. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 50 ans. Et puis, il y a toujours quand même un peu un clivage entre, on va dire, une vision conservatrice des politiques sociales, qui est plutôt tournée vers la responsabilisation, et puis une vision peut-être plus sociale, qui est peut-être plus tourné vers l'insertion. On est tiraillé toujours entre tout ça.
Oui, alors effectivement, l'objectif redistributif ne fait pas totalement consensus. Hein. Certains insistent plutôt sur le fait que les politiques sociales devraient se contenter d'une certaine manière de lutter contre la grande pauvreté. D'ailleurs, le montant du RSA en France est bien en dessous du seuil de pauvreté. D'autres insistent sur le fait que les politiques sociales devraient plutôt corriger les inégalités entre les sexes, inégalités sociales, C'est ce à quoi aspirait notamment la politique des retraites. C'est aussi ce que propose la politique de promotion de l'égalité des sexes dans l'emploi, par exemple. Donc cette dimension redistributive, elle est à la fois promue, mais en même temps contestée.
C'est des sommes considérables, mais en même temps, est-ce que les résultats sont à la hauteur ou pas ?
Alors, les politiques sociales bénéficient, comme je le disais tout à l'heure, à beaucoup de personnes. Hein. Elles assurent un niveau de vie équivalent à celui des personnes actives pour les retraités. Elle a contribué en tous les cas à améliorer l'état de santé des populations. Elle a favorisé l'accès des femmes au marché du travail. Donc, elle marque un certain nombre de bons points d'une certaine manière. Après, c'est intéressant de voir aussi que les résultats sont pas toujours, on va dire, à la hauteur des objectifs affichés pour différentes raisons. En partie pour des questions de moyens. Hein. Les organisations et les professionnels qui mettent en œuvre les politiques sociales n'ont pas toujours les moyens d'atteindre leurs objectifs. Je vous donne un seul exemple. Hein, la politique familiale française se propose de favoriser le libre choix des familles, choisir de garder soi-même ses enfants, ouais, ou plutôt d'avoir recours à des crèches ou des assistantes maternelles. Mais sur beaucoup de territoires, notamment sur les territoires ruraux, il n'y a pas de crèches, ou pas suffisamment de crèches. Donc là, le libre choix est un leurre, par exemple.
Il y a un sujet qui est un sujet toujours un peu polémique, qui est le sujet, finalement, est-ce que trop d'aide sociale, ça fabrique des assistés? On voit bien, par exemple, qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y avait des politiques sociales qui avaient comme volonté d'accompagner le retour au travail, hein, le RMI, le RSA, et qu'à chaque fois, la partie réinsertion ne fonctionne pas. Et qu'on se dit, mais finalement, est-ce qu'avec tout ça, on ne fabrique pas des gens qui ne veulent plus travailler et des assistés, entre guillemets, quoi?
Alors c'est un discours qu'on entend beaucoup, hein, depuis un certain nombre d'années, notamment de la part d'hommes et de femmes politiques. Ce discours stigmatise d'une certaine manière les populations assistées, c'est-à-dire qui bénéficient des politiques d'assistance, et prétend en fait lutter contre la pauvreté et le chômage en incitant financièrement les personnes privées d'emploi à la reprise d'un emploi. C'est typiquement la philosophie du RSA et de la prime d'activité. Les sciences sociales sont utiles pour éclairer ce débat, puisque les travaux qui existent sur les bénéficiaires de ces minima sociaux montrent bien que les freins à l'emploi sont des freins structurels. Une part importante des allocataires du RSA, par exemple, hein, ont des difficultés de santé importantes, des problèmes d'invalidité, de handicap, souffrent aussi de problèmes de sous-qualification importante. Se pose aussi le problème que j'évoquais tout à l'heure, celui du mode de garde des enfants. Il y a aussi des problèmes de trop faible mobilité dans des territoires enclavés. Et finalement, hein, en tenant un discours sur les assistés, on passe à côté des raisons importantes, des freins importants à la reprise d'emploi. Il ne faut pas oublier, bien sûr, un des freins qui n'est pas le moindre, celui de la pénurie d'emplois sur certain nombre de territoires, notamment de territoires ruraux.
Il y a quand même un point qui transparaît finalement dans tout le livre, c'est que souvent une des raisons peut-être de l'inefficacité des politiques sociales, c'est qu'on est dans un pays dans lequel on a une accumulation de ces politiques sociales, mais pas de succession, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait on accumule des dispositifs qui parfois finalement sont contradictoires et finissent par se neutraliser entre eux et ne plus être efficaces.
La question de l'efficacité, elle est complexe. Effectivement, il est souvent de bon ton d'apporter sa touche, de mettre en scène le fait qu'on agit, qu'on va réformer. Néanmoins, je pense que la question de l'efficacité, elle est plutôt à voir sous un autre angle, notamment celui des conditions de travail, hein, des professionnels des politiques sociales. Ouais. C'est net dans des secteurs qui ont été très médiatisés, hein, l'aide aux personnes dépendantes, l'aide aux personnes handicapées. Les conditions de travail des professionnels sont souvent assez éprouvantes, hein, avec de la pénibilité physique, parfois aussi de la pénibilité psychique, je dirais, hein, travailler au contact des personnes qui dépendent directement des aides sociales, qui sont en situation de fragilité financière extrême. Ça peut générer des tensions, voire de l'agressivité au guichet des politiques sociales. Ça, c'est une vraie difficulté pour ces professionnels. Ces professionnels, en plus, ne bénéficient pas d'une reconnaissance reconnaissance à la fois en termes de salaire, de conditions de travail et d'emploi qui sont à la hauteur des besoins sociaux qu'elles permettent de couvrir.
Alors, il y a un point, moi, qui m'a passionné dans votre livre, c'est que vous dites, bon, il y a les politiques sociales qui sont décidées, il y a des lois, alors des fois, c'est pas clair, mais vous dites, en fait, sur le terrain, les personnels qui sont chargés de mettre en place ces politiques sociales ont en fait une immense latitude pour les appliquer et qu'il faut prêter beaucoup d'attention, par exemple, à la sociologie de ces personnels finalement qui appliquent les politiques sociales sur le terrain. Vous dites par exemple, il y a eu une espèce d'élévation du niveau de recrutement de ces personnels, ce qui fait que quelque part il y a eu un éloignement entre les gens qui bénéficient de ces politiques sociales et ceux qui les aident.
Tout à fait, c'est vrai, ce sont les travaux de sociologie du guichet qui ont permis de montrer ça. Hein. Auparavant, le recrutement dans les services publics était davantage ouvert d'une certaine manière aux classes populaires. Aujourd'hui, on a davantage affaire à des classes moyennes, un peu plus diplômées et qui, dont le profil sociologique s'écarte des personnes qui sollicitent les aides sociales. Ça peut diminuer des formes de relations de connivence ou de compréhension des situations sociales que vivent les bénéficiaires des minima sociaux, par exemple. Ça peut être un problème, effectivement. J'insiste sur les conditions de travail qui sont vraiment une clé aussi importante pour comprendre ce qui se passe au guichet, hein, avec parfois un flux de personnes importants et des moyens pas forcément suffisants.
Alors, il y a aussi quelque chose qui frappe, c'est que on a l'impression que les majorités politiques changent, mais que finalement, les politiques sociales, elles sont un peu toujours les mêmes. Et en fait, vous racontez, c'est un des articles de cet ouvrage collectif, qu'il y a en fait une espèce d'élite de hauts fonctionnaires qui finalement perpétue. Finalement, et décide de ces politiques sociales indépendamment des pouvoirs politiques, quasiment.
Oui, ce sont les travaux notamment de mon collègue Patrick Hassenteufel, hein, qui a travaillé sur ce qu'il appelle les élites du welfare et qui montre bien que finalement on a dans la haute administration des politiques sociales une certaine continuité avec des personnes qui sont acquises, qui construisent des carrières dans l'administration de l'État social et qui partagent un certain nombre de diagnostics, par exemple sur le besoin de réformer la sécurité sociale. Le fait que ces élites du welfare restent en poste par-delà les alternances politiques contribuent à expliquer effectivement une forme de continuité, notamment dans les politiques d'incitation à la reprise d'emploi, par exemple.
Alors, on disait tout à l'heure, les problématiques évoluent. Quels sont les défis maintenant pour les politiques sociales? Il y en a un qui est évident, c'est tout ce qui tourne autour de l'égalité, finalement, des sexes.
Oui, il y a un papier effectivement consacré à la façon dont les politiques sociales peuvent corriger ou au contraire aggraver les inégalités entre les sexes. C'est important d'avoir conscience qu'elles constituent un potentiel levier important pour l'égalité des sexes. Les politiques familiales, par exemple, hein, contribuent à lever un frein à l'emploi des femmes. Ça c'est un bon exemple. On peut souligner aussi l'enjeu de la professionnalisation d'un certain nombre de secteurs de politique sociale où on a beaucoup de professionnels qui sont des femmes, l'aide aux personnes âgées, aux personnes dépendantes. En améliorant les conditions d'emploi et de travail de ces personnes, on agit sur l'égalité des sexes. Néanmoins, ces leviers sont insuffisamment activés, hein, d'une part parce que la professionnalisation de ces secteurs est très, très insuffisante. On en a beaucoup parlé au moment de la crise du Covid. D'autre part, la reconnaissance aussi, hein, en termes de salaire notamment, est insuffisante. D'autre part, les politiques sociales continuent de promouvoir un certain nombre de dispositifs qu'on dit familialisés, de prestations familialisées, qui font que finalement les allocataires, le montant des aides perçues par les allocataires dépendent directement des revenus du conjoint ou de la conjointe. Et ça contribue à maintenir une forme de dépendance dans les couples qui peut être très problématique et qui peut d'ailleurs aggraver des situations de violence conjugale, par exemple.
Merci. Alors, sans transition, pas tout à fait sans transition, parce que après l'état des savoirs sur les politiques sociales, c'est maintenant l'état des savoirs sur la construction européenne, Laurent Verlouzet. Concrètement, vous dites qu'il y a trois logiques qui dominent l'organisation de l'Europe. Il y a un, le marché libre, deux, la solidarité, 3 la puissance, et en gros tout ça correspond à 3 types de politiques économiques. Une politique libérale d'un côté, une politique sociale de l'autre, une politique que vous qualifiez de néo-mercantiliste enfin.
Voilà, oui, en fait j'ai voulu faire une histoire de la construction européenne, de l'organisation du continent européen depuis 45, avec une vision globale, globale en termes d'acteurs, donc c'est vu depuis Paris, mais aussi vu depuis Bruxelles, depuis Berlin, depuis Londres, aussi vu depuis les gouvernements, mais aussi depuis les entreprises, hein, j'en cite quelques-unes, j'étais dans les archives de quelques organisations patronales. Et en même temps global du point de vue des thématiques, donc politique économique, politique institutionnelle, ça a déjà été pas mal fait, il y a beaucoup de livres là-dessus, mais aussi les politiques économiques, sociales, environnementales. Et plutôt que de faire une histoire chronologique, j'ai voulu essayer de reconstituer les grands débats autour de ces trois nœuds, l'Europe libérale, voire parfois ultralibérale, l'Europe sociale, environnementale, et puis l'Europe voilà, néo-mercantiliste. En France, on dit l'Europe puissance, l'Europe industrielle, l'Europe colbertiste.
Mais c'est des Europes qui vivent simultanément ou ce sont au contraire des balanciers qui, au fil des années, et peut-être même des décennies, finalement, on va plus du côté libéral, plus du côté social, plus du côté néo-mercantiliste.
C'est un peu des deux. Alors, d'ailleurs, vous avez raison de dire que c'est une typologie qui peut s'appliquer aussi au niveau national, hein, au niveau régional, ouais. dans d'autres pays. Bon, moi, je l'applique au niveau de la construction européenne. Effectivement, donc, il y a à la fois une fusion et en même temps une opposition. Et puis, des logiques dominantes aussi. La dominante, c'est quand même l'Europe du marché, avec ensuite une Europe solidaire qui est plus ponctuelle, qui se développe, surtout si on inclut dedans le plan Marshall, comme je le fais, ou les aspects environnementaux, les aspects aussi de genre, dont a parlé Gwenaël. Et puis, vous avez toujours l'Europe puissance, qui est une tentation qui est toujours là, notamment de notre côté, du côté français, mais qui se réalise que très partiellement. Je cite dedans quelques exemples, Airbus, Ariane, mais c'est pas ça devient jamais une dimension dominante, sauf peut-être dans l'avenir, on verra, puisque j'identifie un tournant un peu quand même vers l'Europe puissance depuis 2015-2016.
Alors, il y a quand même une espèce d'illusion d'optique, j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on est tous souvent convaincus qu'on avait une vision de la construction européenne au départ, un point d'arrivée à l'autre bout, et que nous sommes en train de cheminer, finalement, sur ce trajet. Et donc, des fois, on se dit, on avance, des fois, on recule. Et en fait, quand on lit votre livre, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, la construction européenne. On savait même pas. On est parti peut-être de plus petits dénominateurs communs, mais sans définir de vrais projets et sans savoir où on allait vraiment.
Oui, l'idée du livre, c'est de montrer qu'il y avait des alternatives qui ont été discutées, qu'on a pris certains chemins à cause du fait de rapports de force, parfois aussi du fait de certains hasards, et qu'il n'y a pas de chemin inéluctable, un peu téléologique, vers soit les États-Unis d'Europe d'un côté, soit les États de l'autre, ouais. Soit, je ne sais pas, l'Europe des régions ou n'importe quoi. Il y a toujours plusieurs choix possibles. Et là, alors maintenant, depuis le Brexit, on a la fragilité de l'Europe nous saute aux yeux, mais voilà, c'est une dynamique qui peut aussi se manifester avec ce qui se passe alors avant la guerre en Ukraine, en Pologne, en Hongrie. On peut très bien avoir une Europe, une Union européenne qui persiste mais qui se délite de l'intérieur. Si le Brexit est mal géré, là je parle de la zone de libre-échange britannique là, qui peut toujours revenir. Et puis si la Hongrie, la Pologne s'attaquent à ce qui fait quand même le cœur de l'intégration européenne, c'est-à-dire le droit fédéral et l'unité du marché unique. Donc on peut avoir plusieurs Europes, une Europe plus unie, plus forte, ou alors une Union européenne qui se transforme en une espèce de zone de libre-échange assez lâche.
Donc tout ça, vous dites que le destin n'est pas écrit du tout. En même temps, on se dit, honnêtement, on a parfois peur, on se dit, mais l'Union européenne, elle est mortelle finalement, elle est fragile.
Oui, tout à fait. C'est ce que, dans le livre, en fait, ce qu'on voit, c'est à la fois qu'il y a une certaine inertie. C'est vrai qu'il y a quand même des institutions, un petit peu comme ce que vous avez évoqué avec Gwenaël sur le fait qu'il y a une certaine permanence de certaines élites et puis de certains comportements. Et puis ça correspond aussi, je pense, aux voeux de la population. Il ne faut pas voir ça uniquement du point de vue d'élites coupées de la population. Et il y a une inertie aussi institutionnelle. Par exemple, là, dans le livre, je parle beaucoup de politique de la concurrence, histoire de la politique de la concurrence. Ça intéressera sans doute tous les entrepreneurs qui vous écoutent, ceux qui travaillent dans les entreprises. Il faut savoir que la politique de la concurrence, qui permet donc à Bruxelles de réguler les ententes, les cartels, les fusions, les abus de position dominante, les aides d'État aussi, de manière très très forte. Bruxelles s'appuie, la Commission européenne, sur des articles rédigés en fait en 57. Et c'est toujours les mêmes articles. Alors après, depuis, il y a eu de la jurisprudence, il y a eu des règlements, mais les articles ont été formés en 56-57. Et d'ailleurs, à tel point que certains juristes aujourd'hui font des travaux historiques pour essayer de se replacer dans le contexte.
Et pour le coup, ça a plutôt profité aux consommateurs. Alors, quand on compare avec les États-Unis depuis 30 ans, on s'en est plutôt bien tiré. Est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui dans notre pays, inclus dans l'Union européenne, que sans l'Union européenne. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas deux mondes parallèles, on peut pas savoir. Mais grosso modo, est-ce qu'on vit mieux tous ensemble en Europe que si on était restés chacun de notre côté?
Bah, du coup, pour reprendre ces trois Europes, on a fait l'Europe libérale pour la paix, c'est l'idée, voilà, le commerce favorise la paix, au-delà en plus de l'Europe, de l'idée libérale classique de dire le commerce crée de la croissance. L'Europe solidaire, donc c'était des formes de solidarité ponctuelle, hein, plan Marshall, aujourd'hui c'est la politique régionale de cohésion pour aider notamment les pays les plus pauvres, Est, Sud, mais c'est aussi tout ce qui est politique d'égalité des sexes, politique environnementale. Là, dans le livre, j'ai retrouvé des exemples de législation environnementale qui montrent qu'en fait, si on n'avait pas eu l'Europe, on aurait sans doute eu moins de législation environnementale. Alors, vous allez me dire, ça aurait peut-être été mieux, ça dépend des opinions.
Mais
il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Europe du Nord, en fait.
Sur tous ces sujets-là, on est très bon. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Europe, c'est la seule zone du monde, finalement, à se préoccuper du bien commun de tout le monde. Mais en même temps, quand il s'agit de faire émerger des champions industriels,
voilà, vous dites, j'allais y arriver, l'Europe,
vous dites, on n'y arrive pas.
Alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas au niveau européen, à part avec Airbus et Ariane, mais il y a quand même des champions qui émergent, mais dans une logique de marché. C'est-à-dire, c'est soit des champions nationaux type EDF, quoi, par exemple, Orange, quoi, des anciens monopoles qui sont devenus des champions nationaux mondialisés, soit ce sont des entreprises purement privées qui se regroupent et qui forment des champions. Donc, cette Europe puissance, en fait, effectivement, les Français ont toujours voulu transposer au niveau européen leur colbertisme industriel national. On n'y est pas vraiment arrivé, sauf avec Airbus et Ariane, même si ce sont deux initiatives qui sont nées en dehors de l'Union européenne, mais qui s'en sont rapprochés. Par exemple, c'est la commission qui défend Airbus contre Boeing à l'OMC. Mais on n'a pas réussi. Alors, par contre, c'est quelque chose qui, c'est une tentation qui revient en permanence. Là, on parle de l'Airbus des batteries. Il y a eu quand même des financements européens. Depuis la commission Juncker, depuis aussi le Brexit, depuis Trump, depuis aussi la politique plus assertive de Xi Jinping, il y a quand même une vision de la politique industrielle qui est moins négative à Bruxelles.
Comment,
ça revient un petit peu.
Comment on se sort de la paralysie institutionnelle?
Alors,
c'est-à-dire en gros cette idée que pour prendre des décisions, il faut que tout le monde soit d'accord. Et on voit bien qu'en fait, il y a de plus en plus de problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre tout seul. Et qu'en même temps, on se dit, on a l'impression qu'on a de moins en moins envie de les résoudre ensemble.
Alors, c'est, je pense, un problème qui touche la construction européenne, mais qui touche aussi les États-nations. Je pense que vous en avez donné des exemples avec le livre de Quesnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire quelque chose, enfin, on a vu dans des débats récents, mettons par exemple poser des éoliennes, bah, vous avez toute une procédure, des consultations, des recours. Donc, la nécessité d'articuler les autorités locales, nationales. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans des démocraties libérales, et l'aspect libéral est d'autant plus fort que c'est du libéralisme politique. On partage les pouvoirs pour éviter la dictature d'un seul. Donc, ce qui fait que le processus de décision est compliqué au niveau national. Mais c'est la même chose au niveau européen, parce qu'effectivement, il faut se mettre d'accord à 27, même si elle vote à la majorité qualifiée dans un certain nombre de domaines, le Parlement européen, et puis après, il y a la jurisprudence de la Cour de justice. Mais bon, il y a des décisions. Là, il y a le Digital Market Act qui a été passé récemment en matière de politique de la concurrence pour essayer de renforcer la lutte contre les GAFA. Enfin, il n'a pas été passé, mais il y a eu l'accord politique entre le Conseil et le Parlement européen en mars. Donc, il y a quand même des choses qui sont possibles. Là, je fais justement à la fin du livre, je fais une petite conclusion sur ça. Effectivement, on a les deux, c'est-à-dire d'un côté l'inertie, c'est un gros paquebot difficile à bouger, l'Union européenne, et en même temps on voit des innovations parfois assez rapides. On a vu dans le Covid par exemple, hein, la mise en commun des vaccins, et dans le passé aussi on a vu par exemple quand l'Union économique et monétaire a été décidée à Maastricht, ça s'est fait en quelques années, alors pas en quelques mois mais en quelques années. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable de fusionner les monnaies, surtout avec les Allemands qui voulaient absolument pas laisser leur Deutsche Mark. Donc on a à la fois, c'est vrai, une inertie, et en même temps, s'il y a une bonne coalition d'acteurs, des gouvernements, la Commission, la société civile, on peut obtenir des changements. Idem sur l'aspect environnemental aussi, d'ailleurs.
Merci beaucoup, Laurent Varlouzet. Je rappelle votre livre « Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance ». C'est aux éditions du CNRS. Et puis, cet ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, Gwenaëlle Perrier, « Politique sociale, l'état des savoirs », c'est aux éditions La Découverte, co-dirigée avec Olivier Giraud. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. C'est Frédéric Simotel qui sera notre bibliothécaire plongeur sous-marin cette semaine. Vous verrez. Et puis Belaouda Abdedaïm, lui, les pieds sur terre, notre globe-trotteur. Et tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et qui est, lui, le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence, allez, avec tiens, le choix de Jean-Marc Daniel, le dernier livre de Michel Aglietta, qu'il n'a pas écrit seul, d'ailleurs il a écrit avec Globay et Camille Macaire, c'est chez Odile Jacob, c'est La course à la suprématie monétaire mondiale.
Oui, alors c'est un livre que j'ai trouvé à la fois intéressant et irritant. Irritant parce que il y a quand même toute une partie qui est le panégyrique de la Chine et de façon assez maladroite et un peu grossière. Et passionnant parce que, alors il y a 5 chapitres dans le livre, et il y a, alors il y en a un en particulier sur la Chine face à au réchauffement climatique qui est quand même un peu abusif. C'est-à-dire, on a l'impression que la Chine est à l'avant-garde du combat quand on sait quand la quantité de charbon qui se brûle en Chine et...
Ouais, mais il y a une tendance aussi qui... Pour voir d'où ils viennent et où ils vont.
Oui, justement. La situation n'est pas brillante en la matière. En revanche, il y a deux chapitres que j'ai trouvé passionnants. Un sur les monnaies numériques de banque centrale, ce qu'ils appellent les MNBC. C'est-à-dire comment effectivement se pose le problème. Comment se pose l'émergence d'autres monnaies comme la Libra de Facebook, comme ce qu'on appelle les crypto-monnaies, dont ils disent que c'est à la fois un terme abusif. C'est pas vraiment des crypto-monnaies. C'est pas vers ça que l'on va tendre. Il y a d'autres enjeux. Il montre bien que derrière les MNBC, donc les monnaies numériques de banque centrale, il n'y a pas que la commodité pour les consommateurs et pour les usagers, il y a le rôle des banques. C'est-à-dire que la banque, qui est le créateur de monnaie, qui gère déjà une monnaie numérique, nos comptes courants sont déjà numériques, va se trouver en position de porte-à-faux. Il va falloir qu'elle redéfinisse son rôle par rapport à la banque centrale. Donc c'est à la fois bien écrit, bien analysé et très pédagogique. Et puis il y a évidemment le domaine de prédilection de Michel Aglietta, qui est le système monétaire international. Donc, il réactualise le célèbre dilemme de Trifin, hein, c'est-à-dire le fait que le monde, à la fois dépendant du dollar, a besoin du dollar et est victime du dollar. Le monde vit avec le dollar comme monnaie internationale, ce qui fait que les Américains, pour nous fournir nos dollars, vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, cette espèce de situation un peu aberrante. Il dit, ça peut pas durer. Et donc, il y a des propositions alternatives dans lesquelles c'est pas forcément le yuan qui met en avant. C'est plutôt le DTS. C'est plutôt une monnaie vraiment qui serait une monnaie internationale et pas la monnaie d'un pays. Donc, ce que je recommande aux lecteurs, c'est de lire les MNBC et le DTS. Et puis... éventuellement de faire l'impasse sur la propagande chinoise.
Christian Chavagneux.
Bon, un livre de Michel Aglietta, faut toujours l'ouvrir de toute façon. Là, en plus, il y a sa co-autrice Gobay, qui est chinoise, et Camille Macaire, qui est une des meilleures spécialistes françaises de la Chine. Donc là, vraiment, on a des auteurs top niveau. Michel Aglietta, tous ses derniers livres, et celui-ci ne fait pas exception, redémarre toujours par les fondamentaux. C'est quoi la monnaie? Comment évolue le système financier? Et l'approche qu'il a développée depuis maintenant une bonne quarantaine d'années avec André Orléans sur l'ambivalence de la monnaie, à la fois qui nous permet, parce qu'elle est acceptée par tout le monde, d'échanger, de faire société, et en même temps, accaparée par quelques-uns, c'est aussi une relation de pouvoir hiérarchique. Donc il faut arriver à jouer sur cette ambivalence de la monnaie. Les marchés financiers jouent sur le momentum, comme dit Michel Aglietta, c'est un mot qu'il aime bien, qu'il emploie beaucoup ces dernières années, c'est-à-dire s'endetter plus pour gagner plus, quoi, hein, et dans des croyances collectives qui finissent par en bulle et qui finissent par crise. Donc là, les premiers chapitres, on reboucle sur les fondamentaux de l'approche de Michel Aglietta. Après, c'est vrai qu'il y a un chapitre sur les liens entre instabilité financière et risque climatique, qu'il ne faut pas oublier, c'est un des grands thèmes de recherche de Michel Aglietta aujourd'hui, mais c'est vrai que, comme Jean-Marc, moi, ce qui m'a plus passionné, c'est l'approche de la Chine. Il y a une approche historique aussi, hein, l'approche de la Chine vis-à-vis du système monétaire international. Premier chapitre, enfin un chapitre qui nous dit, la Chine veut vraiment développer le rôle international de sa monnaie, mais tout doucement, de manière prudente, en prenant son temps, sur le moyen long terme, d'autant plus que la Chine, il faut le savoir, en termes d'actifs financiers, les plus grandes banques du monde, hein, qui sont largement supérieures aux JP Morgan et aux banques européennes, et qu'elles ne sont pas toujours très très bien sur le plan de la gestion de leurs risques. Donc s'ouvrir au grand vent de la finance, quand vous avez des banques un peu fragiles, c'est pas top. Donc les Chinois vont prendre leur temps, mais vont essayer de pousser l'utilisation internationale de leur monnaie. Et c'est vrai que toute la fin du livre sur les monnaies digitales de banque centrale, les MDBC plutôt que les MNBC, pardon, c'est le petit détail, les MDBC.
MNBC.
Non, vous verrez, on verra. Parce que j'ai fait la même erreur, j'ai vérifié. C'est pour ça que je le permets.
J'ai noté en tête que c'est les MNBC. Bon, enfin bref, de quoi on parle.
Voilà, les monnaies numériques de banque centrale, les plateformes de paiement qui sont développées ont poussé l'une de ces plateformes Facebook à essayer de créer sa monnaie privée. Et là, les régulateurs sont tombés dessus. Ils ont dit non, il faut qu'on développe des monnaies publiques de banque centrale. Comme l'a dit Jean-Marc, est-ce qu'on continue à passer par les banques ou est-ce que nous, on n'aurait pas notre compte à la banque centrale? On voit, et il y a quelques pages qui m'ont fait un peu peur, sur le pouvoir que prendraient les banques centrales d'avoir accès direct à nos comptes. À quand elles veulent relancer l'économie, elles pourraient nous mettre de l'argent sur le compte. Mais le jour où elles veulent squeezer l'économie, pourra non pas en enlever, mais mettre des taux d'intérêt négatifs sur nos comptes. Donc, quelque part, nous retirer une partie de ce qu'on a gagné. Ça fait un petit peu peur. Et puis, la fin, bien sûr, et c'est là le plus original, c'est est-ce que ces monnaies numériques de banque centrale, sur lesquelles la Chine est beaucoup plus en avance que le reste du monde, et la Chine est beaucoup plus en avance aussi, non seulement sur l'existence et sur l'utilisation, mais aussi sur le fait de faire des liens, des plateformes d'échange de monnaies numériques de banque centrale entre pays. Parce que s'il n'y a pas ces échanges, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez avoir chaque pays ou chaque région du monde qui développe ses monnaies et plus d'interaction. Donc, c'est soit la fragmentation du système international, soit la coopération. Michel Aglietta nous dit, ça va être la fin du dollar, ça va être la fin des devises clés, malheureusement. Et là, c'est la partie que j'aime le moins, c'est qu'il nous explique ça depuis 1987 et son premier livre sur la fin des devises clés. Et depuis 30 ans, il a tort. Donc, on peut très bien expliquer pourquoi il a tort. C'est la façon dont la théorie de la régulation s'intéresse à l'international. Je ne veux pas le faire ici. Mais je pense que là, Michel Aglietta a tort. Il promeut le DTS, comme d'habitude, dans tous ses livres. Mais il reste un bouquin vraiment excellent, qui nous fait beaucoup réfléchir sur l'avenir de la monnaie, sur l'avenir du système monétaire international.
C'est dit. Allez, votre livre du jour, Christian, le livre de Bertrand Lignereux, Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours, aux éditions LGDJ.
Alors évidemment, quand un maître des requêtes au Conseil d'État écrit sur la fiscalité du patrimoine, le style n'est pas toujours très très enjoué. Néanmoins, ça donne un livre bien informé, bien précis et qui nous donne une perspective historique de la Révolution à nos jours. La Révolution, ce sont les physiocrates qui sont les économistes du moment. Il n'y a de richesse que de terre. Et donc, l'impôt sur le patrimoine qui va être créé, ça va être une contribution foncière. L'Empire a besoin de beaucoup plus d'argent qu'une petite contribution foncière pour nourrir les guerres. Et donc, c'est plutôt les impôts indirects. Et la monarchie qui prend la suite, et bien là, va essayer de baisser la contribution foncière. Parce qu'évidemment, ce sont les aristocrates qui la payent. Et puis, quand vous avez moins de gens qui payent la contribution foncière, quand vous êtes dans un système censitaire, ben ça fait moins de gens qui votent. Donc, ça reste un petit peu plus le choix des votes sur une petite élite. La deuxième moitié du 19e siècle, en France, on dit toujours que c'est une période de stabilité fiscale. Ce qui est vrai. Mais ce que montre bien l'auteur, je trouve que c'est une des parties les plus intéressantes du livre, c'est de dire c'est dans cette deuxième moitié du 19e siècle que se pensent tous les grands débats, toutes les grandes révolutions fiscales du 20e siècle. On commence à parler taxation des revenus du capital, on commence à parler taxation de l'héritage, progressivité de l'impôt. Il y a même des gens qui inventent un grand, et pas, franchement pas des gauchistes, hein, plutôt des gens de droite, qui inventent des grands impôts sur le capital. Émile de Girardin, le comte Bradisky, etc. Intéressant. On arrive au XXe siècle, la fameuse loi de 1901 sur l'imposition progressive des héritages, et puis toute l'entre-deux-guerres. Bon, juste un petit truc sur l'entre-deux-guerres, c'est vraiment le début de la lutte contre l'optimisation et la fraude fiscale. Les Trente Glorieuses, 1980, l'impôt sur la fortune, qui est fait, qui est redéfait, qui est complètement mité de toute façon, et jusqu'à Emmanuel Macron 1, qui transforme en IFI, et là l'auteur nous dit, petit clin d'œil, on revient un peu à l'époque physiocratique, et on boucle tout le livre. Voilà, c'est le style n'est pas forcément les plus engageants, mais on apprend tellement de choses que j'ai voulu mettre ce livre en avant.
Jean-Marc Daniel.
Oui, alors c'est un livre, comme l'a dit Christian, dont le style n'est pas très enthousiasmant, c'est un livre austère. Et d'ailleurs, la collection Système Perspective est une collection réservée pratiquement aux étudiants, il est bien dit, et aux juristes. D'ailleurs, il y a assez peu de données économiques. Par exemple, le XXe siècle, une des refontes de la fiscalité était liée au fait que l'inflation était devenue un paramètre qui n'existait pas au XIXe siècle. Elle est assez largement absente de la réflexion. Alors, effectivement, il y a une revue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il met bien en avant, notamment donc avec les arbitrages entre la constituante et le directoire, et puis ensuite après la révolution 1848, et puis de nouveau après la Première Guerre mondiale, le fait qu'il y a toujours des grands principes, des grandes idées, et puis il y a la nécessité, c'est-à-dire la nécessité budgétaire. Et donc, le directoire, c'est les mêmes que ceux qui étaient à la constituante, enfin, ce sont ceux qui ont survécu à la terreur, donc ils vont abandonner les grands principes physiocratiques. De même, après 1848, on va revenir à des principes qui sont de réponse à l'urgence. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, et là, je rejoins Christian, c'est que la période des républicains, les républicains d'origine, les premiers républicains de la Troisième République, se posaient beaucoup de questions sur la légitimité, sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il devait faire. Il y avait une sorte de sentiment qu'il n'était pas là forcément de façon automatique, et donc il fallait qu'il soit républicain au sens militant du terme. C'était pas uniquement un mot qu'on emploie comme ça. Bon. Et alors, la conclusion, effectivement, c'est l'IFI, c'est un peu un hypophysiocratique. Je rappelle quand même que chez les physiocrates, il y avait l'idée que la terre existe quoi qu'il arrive, alors que les logements n'existent pas quoi qu'il arrive. Si on met un impôt sur les logements, on risque de ne pas les faire émerger, alors que la terre, comme disait d'ailleurs Mirabeau, un des principaux physiocrates, la terre sera là quoi qu'il arrive. Elle était là, elle sera là quoi qu'il arrive.
Merci messieurs, je voulais pas terminer cette émission sans que vous nous disiez un petit mot de notre ami Jean-Paul Fitoussi. On a appris avec beaucoup de tristesse sa disparition. Voilà, c'était quand même un immense contributeur au débat public français. Christian Chavagneux, vous l'avez bien connu.
Oui, moi j'ai eu la chance de travailler avec lui quand j'étais au Plan, et puis après comme journaliste je l'ai interviewé. C'est déjà quelqu'un qui à titre humain n'était pas du tout condescendant. Il vous traitait de manière tout à fait égale. Évidemment un grand keynésien, amoureux de la théorie économique, amoureux des faits, et disant toujours qu'il fallait que l'économie soit dans le débat public.
Jean-Marc Daniel.
Oui, c'était un grand économiste, un bel esprit, quelqu'un de très tolérant. Moi, j'ai été à l'OFCE, quand l'INSEE m'a recommandé pour aller à l'OFCE, il m'a reçu, il m'a dit, j'ai bien compris que vous n'étiez pas keynésien. Je dis non. Et il m'a dit, mais on a besoin de gens comme vous pour animer le débat. Et donc, je trouve qu'il va nous manquer. Il avait publié un livre qui s'appelait Le débat interdit. Ouais. J'espère que sa disparition ne va pas nous priver de débat.
Il a fait beaucoup de livres, mais c'est vrai que Le débat interdit, qui était le débat sur la politique économique, hein,
à l'époque, la politique monétaire.
Les années 90, c'était vraiment un pavé dans la mare du débat public. Et c'est vrai qu'on a tous été des élèves, soit quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années, de Jean-Paul Fitoussi, qui va bien nous manquer. Il était venu plusieurs fois dans cette librairie de l'Écho. On a évidemment une pensée pour lui et pour toute sa famille. C'est maintenant l'heure de retrouver Frédéric Simotel, notre globe-trotteur, qui nous emmène sous les mers aujourd'hui.
BFM Business, la librairie de l'Écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Frédéric Simotel.
Bonjour Emmanuel.
Frédéric, notre éditorialiste tech à BFM Business, notre bibliothécaire du jour qui va nous faire voyager dans le temps, plutôt dans le futur. Et bibliothécaire, je devrais dire plutôt presque plongeur sous-marin aujourd'hui.
Oui, mais très très profond.
Très très profond. Vous nous emmenez où Frédéric?
Je vous emmène. Alors, le titre de l'ouvrage c'est Below the Edge of Darkness, c'est-à-dire au-dessous du bord des ténèbres. Donc on va plonger très profond, mais très profond, c'est-à-dire là où il fait bien noir, et ben on va descendre encore plus dans les dessous, avec ce livre qui s'appelle, si je le traduis en français, Au-dessus du bord des ténèbres, explorer la lumière et la vie en haute mer. C'est Edith Wider, c'est une biologiste marine américaine dont l'histoire, et on va comprendre tout ça, elle a travaillé, le mot qui a guidé sa passion, son métier, sa vie, c'est bioluminescence. Alors elle, au début, elle a 18 ans, elle est étudiante, elle a un problème de fracture du dos, elle se fait opérer, et pendant l'opération, elle devient aveugle pendant plusieurs mois. Et du coup, quand elle sort de là, elle commence à comprendre l'importance de la lumière. Comme elle aimait bien la mer, la lumière, elle s'est plongée encore plus dans tout ce qui était bioluminescence océanique, dans l'océan profond. En vrai, on descend vraiment à plus de 500 mètres de profondeur. Un domaine scientifique peu exploré, un domaine scientifique aussi où c'est compliqué d'avoir des financements, c'est compliqué d'avoir la formation. Elle va quand même y aller, elle va passer donc tous ses diplômes, elle va même passer des diplômes de pilote de submersible, hein, la première fois qu'elle va descendre, elle va descendre à 300 mètres de fond. Vous savez, vous avez dans ces espèces d'armures, la métallique, pour aller explorer tout ça. Et lorsqu'elle arrive en bas, elle éteint tout d'un coup ses lumières. Et alors là, elle se rend compte qu'autour d'elle, c'est le feu d'artifice.
C'était tout noir, moi, au fond.
Mais justement,
de la mer.
Mais il y a plein de petits feux d'artifice. Feu d'artifice, ça s'éclaire, ça s'éteint, ça s'éclaire, ça s'éteint. Ouais. Elle voit des feux d'artifice comme ça, plein de petites lumières qui s'allument. Alors ça lui donne pas évidemment un éclairage comme dans une pièce, mais voilà, plein de petites lumières, un peu comme des vers luisants qui s'allument un peu dans tous les sens. Et là, elle se dit, mais il faut que j'étudie tout ça. Et donc, elle se rend compte que il y a toute une vie
autour de ça. Donc des ménages, elle appelle ça une ménagerie éblouissante des comportements d'animaux, du microbe au Léviathan, hein, au calmar géant, qu'elle va réussir, elle va même réussir à en filmer un. Bon, au passage, elle aura quand même deux accidents tout en bas. Là, elle risque, c'est un peu l'héroïne de Hollywood. Hein, elle a failli fuite d'eau à bord de son petit submersible, elle a failli pas remonter. Elle a réussi à remonter. James Cameron, alors il a pas encore fait un film sur elle, mais il a dit d'elle, c'est elle, elle a vécu tous mes rêves d'enfance. Et puis, alors en plus de l'observation, là, de tout ça dans son film, dans son livre, elle décrit les percées technologiques et puis elle essaie de nous faire comprendre aussi que tout ce qui se passe sous l'océan, bah, ça a un impact pour nous.
Alors qu'est-ce qui nous attend justement? C'est quoi là, les portées scientifiques alors déjà, de toutes ces explorations?
Première chose, elle nous apprend ce que c'est que la bioluminescence. Hein, c'est six syllabes, consonance scientifique, mais ça pourrait nous faire un peu reculer au départ, mais sinon on comprend que la bioluminescence, c'est la lumière naturelle. Il y a deux lumières naturelles aujourd'hui sur la planète. Il y a le soleil et la bioluminescence. La bioluminescence, c'est par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu ces verts luisants que l'on voit. Bah, c'est ça. C'est ce que la réaction chimique que va produire un organisme vivant lorsqu'il est dans les endroits les plus sombres. Et elle raconte ça. Alors elle raconte ses plongées. Donc ça, on a tout ça dans le livre en 84. Elle découvre en 97 la pieuvre meunière rougeoyante, le calmar géant. Elle était la seule, je le redis, à capturer en vidéo dans son habitat naturel en 2012. Elle a été dans les rues sous-marines de lacs dans le golfe du Mexique. Vraiment un peu partout.
Et qu'est-ce qu'elle nous dit de notre gestion des océans?
Eh bien justement, elle nous dit qu'on connaît bien l'espace, mais... on connaît bien l'espace. On connaît mieux l'espace que voilà. Nos océans. Et nos océans, on les connaît, mais que jusqu'à une certaine profondeur. Il y a plein de choses à apprendre dessous. Et justement, alors attention, c'est pas une critique non plus. C'est pas la fille à un plaidoyer écolo, sauvons la mer et tout ça. Non, elle dit il y a des richesses qu'il faut exploiter. Hein, il faut vraiment aller. Il n'y a pas que du pétrole qu'on peut aller creuser au fond. Il y a plein de choses à voir. Et donc, elle est assez optimiste sur le futur. Mais elle dit qu'il faudrait vraiment se concentrer sur tout ce qu'on peut découvrir sous la mer, à travers ces organismes, pas seulement les minerais qu'on irait piocher au fond, et donc il y a pas mal de choses à faire. Donc voilà, Edith Wyder, au-dessous du bord des ténèbres.
Oui. Au-dessus, en dessous. Ouais, au-dessous. Enfin, très profond.
En tout cas, il faut aller plonger, oui.
Merci beaucoup, Frédéric Simotel. On retrouve tout de suite alors celui qui reste encore les pieds sur terre. Hein.
Ouais.
Chez nous, Ben Aouda Abdelnaïm, notre globetrotter.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Ben Aouda, bonjour.
Bonjour.
Et on commence avec une étude qui s'inquiète hein, effectivement des risques de manque de pain hein, dans les pays arabes et qui alerte effectivement sur le danger social que représente ces difficultés.
Oui, le titre c'est « Les Arabes n'abandonneront pas le pain sans se rebeller, Moyen-Orient en danger ». L'auteur est italien, il travaille pour l'armateur MSC et il anime un site sur les questions méditerranéennes, Storie d'Oltremare, qui veut dire « Histoire d'outre-mer » en italien. Giuseppe Manna part du fait central que les Égyptiens, premiers importateurs de blé au monde, consomment entre 180 et 210 kilos de pain par an, contre une moyenne mondiale de moins de la moitié. Et en Égypte, comme ailleurs en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, il estime qu'une combinaison faite de sécheresse, de mauvaise gestion, d'inflation galopante et d'effet de la guerre en Ukraine semble tout droit pousser le monde arabe vers un vent de révolte comme en 2011. Les conséquences les plus néfastes du changement climatique se situent au Levant et au Mésopotamie, avec la poursuite d'une immense marginalisation des campagnes. Autre facteur à prendre en compte, l'impéritie et la gabegie, une illustration en Tunisie où 50% de l'eau introduite dans le réseau est perdu en raison de l'obsolescence des infrastructures. Pays où l'on importe toujours des engrais d'Europe occidentale et de Russie alors qu'il est le cinquième producteur au monde de phosphate. Il y a aussi l'incapacité tout à fait chronique à faire évoluer les politiques de subvention du pain et de l'huile vers d'autres sources d'apport calorique, confère le cas très emblématique de l'Égypte. Et puis est venu s'ajouter à tout cela l'impact dévastateur de la guerre russo-ukrainienne pour l'Yémen par exemple, lui-même en guerre. C'est un paramètre aggravant puisque 22% de ses besoins céréaliers proviennent, sont couverts par les seules importations d'Ukraine. Il y a aussi le Liban où plus de la moitié de sa consommation provient d'achats en Russie et en Ukraine. Alors Giuseppe Manna écrit que les gouvernements auront de plus en plus de mal à faire face au coût de l'apaisement sur les produits de première nécessité, hormis ceux des pays qui peuvent encore compter sur les recettes croissantes en hydrocarbures comme l'Algérie, comme le Oman ou le Koweït. L'auteur rappelle pour finir ce slogan populaire du printemps 2011 au Caire, « Pain, travail, dignité ».
Vous nous emmenez en Colombie, Benahouda, pour savoir ce que pensent les entreprises des phénomènes migratoires.
Oui, c'est une recherche très documentée, effectuée par la Fondation Idées pour la Paix de Bogota, qui a été soutenue par la Fondation allemande Konrad Adenauer. La Colombie accueille près d'1 900 000 Vénézuéliens, donc les voisins, qui ces dernières années ont quitté leur pays, plongé dans une profonde crise politique et économique. L'État colombien a installé différents mécanismes institutionnels spécifiques, mais ce document se concentre ici sur la manière dont les entreprises privées essentiellement jouent un rôle dans la gestion de ce phénomène migratoire, pour reprendre le titre. Maria Lucia Mendes et ses collègues considèrent même que l'inclusion par le travail en entreprise devient à cet égard tout à fait stratégique. Les auteurs analysent les barrières à l'embauche qu'il reste à lever, titre de séjour, homologation des diplômes, des compétences, stéréotypes dans l'emploi, et cela amène à la question de la confiance. 48% des entrepreneurs colombiens interrogés expriment un avis positif, ce qui signifie par contraste qu'une courte majorité n'a pas confiance en un éventuel apport de cette main-d'œuvre vénézuélienne. Donnée à l'appui, l'approche à son endroit s'apparente à celle dont les recruteurs colombiens ont par rapport à leurs ressortissants sortis de prison ou bien qui ont combattu dans une milice colombienne. Il faut également prendre en compte que même si la Colombie a intégré l'OCDE il y a maintenant 2 ans, l'anniversaire c'est le 28 avril 2020, elle reste une économie où le secteur informel reste prépondérant, qui en l'occurrence remplit un rôle majeur d'intégration de ses voisins émigrés. Alors toutefois, les PME colombiennes, celles du secteur formel, se montrent elles aussi, d'après cette enquête en tout cas, de plus en plus désireuses de participer à ce processus, à condition qu'elles sentent, je cite, qu'elles n'y sont pas laissées seules par les pouvoirs publics. Le rapport se conclut par une conviction que cette immigration représente une opportunité, je cite encore, dans le sens où les entreprises sont perçues comme fondamentales.
Et alors, je suis impatient de connaître les conclusions de cette étude coréenne, Benahouda, sur le temps d'utilisation d'Internet et la santé mentale des adolescents, sujet qui va intéresser Frédéric Simotel aussi.
Oui, alors c'est pour ça que c'est un travail de recherche, comme vous pouvez l'imaginer, qui a d'importants échos en Corée du Sud, mais bien au-delà.
Ouais.
Et ce sont 3 universitaires à Séoul qui viennent d'exploiter les éléments de l'enquête nationale de 2018 sur les comportements à risque au sein de la jeunesse entre 16 et 18 ans, donc des lycées. Ces chercheurs auraient certainement pu rédiger la mise en garde. L'abus d'Internet nuit gravement à la santé. En fonction de leur temps passé en ligne, les adolescents de Corée du Sud présentent un niveau plus ou moins élevé de stress, de tristesse et d'idées suicidaires. Le temps moyen d'utilisation des participants, un échantillon très large, était de 193,4 minutes par jour, soit 3h15. Mais ceux qui vont au-delà de cette moyenne ne représentent en fait que 12,5% des garçons et 13,5% des filles. L'utilisation est la plus élevée dans les foyers à bas revenus, ou bien parmi les élèves ayant le rendement le plus faible, rendement scolaire, je veux dire. Autre usage notable jugé excessif, c'est parmi les adolescents victimes de violences. Et puis, la pandémie de Covid-19 a, comme chacun peut s'en douter, augmenté ce temps passé en ligne, donc plus néfaste encore pour ces profils à risque. Yun-Hee Kwak et ses collègues en appellent alors à une importante réflexion sur les programmes de loisirs alternatifs. Alors, vaste question à laquelle ils ne répondent pas. Ceci étant, ils invitent à ne pas généraliser une interprétation unique de leurs conclusions, et ils soulignent aussi combien, au travers de leurs recherches, Internet joue auprès de cette jeunesse sud-coréenne une variété de fonctions favorables, je cite, partage d'informations, communication et même soulagement du stress. En somme, Internet est aussi très bon pour la santé.
Ben oui, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais enfin, prendre quelques livres de temps en temps et puis aller faire un peu de sport de temps en temps, voilà. Être
du bon sens.
La bonne, eh oui, le bon sens et la bonne solution. Merci beaucoup, Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Le rapport sur les inégalités mondiales 2022. On l'a déjà eu sur Internet pour les économistes et les journalistes. Mais là, Le Seuil sort le livre avec bien sûr toutes les données sur les impôts sur le revenu, les inégalités d'impôts sur le revenu, sur le patrimoine. Et deux chapitres très intéressants. Un sur les inégalités de revenus qui concerne les femmes qui font à peu près 50% de la population mondiale et un tiers simplement des revenus. Et un chapitre très important sur les liens entre justice climatique et justice sociale et qui montre que les plus riches polluent beaucoup plus que les plus pauvres. Avec toutes les données, c'est absolument passionnant.
Jean-Marc Daniel.
Écoutez, je ne pouvais pas laisser passer cette semaine qui est...
Mais bien sûr, je sais ce que vous allez nous dire.
Les 250 ans de la naissance de David Ricardo qui était né le 19 avril 1712. Et donc, je recommande la lecture, la relecture, j'espère, pour beaucoup de gens, de ces principes d'économie politique et de l'impôt qui est le livre d'économie qui ait jamais été écrit dans l'histoire de l'humanité.
Ah, vous dites que c'est le plus grand livre d'économie jamais écrit dans l'histoire de l'humanité.
Je pense, oui.
Et un jour, il lira la théorie générale et là, il changera des vies.
Je crois qu'il s'y est collé plusieurs fois et je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris dans la théorie générale. Jean-Marc, non, ça vous a jamais séduit
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Puis l'important, c'est pas de comprendre. Assez vite, sans comprendre les détails, on comprend l'esprit général. Et ça, c'est le plus grave.
Bon voilà, allez, moi je termine. Ah bah c'est un livre événement un peu, vous savez, dans ces fameux livres business case, un peu on vous donne les clés de la réussite pour créer votre entreprise, etc. C'est un livre qui s'appelle Blitz Scaling ou la croissance éclair, écrit par Red Hoffman et Chris Yeh. Red Hoffman, hein, c'est l'un des grandes figures des entrepreneurs de la Silicon Valley. Donc c'est vraiment comment créer son entreprise à rythme éclair. J'aime bien sa phrase punchline: lancer son entreprise revient à sauter d'une falaise et d'assembler son avion pendant la chute. Ça s'appelle donc Blitz Scaling ou la croissance éclair chez Buchet-Chastel. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.